rencontre avec nos évêques.
Nous avons passé tout ce mois en votre compagnie, Monseigneur Brouvet. Vous êtes l'évêque de Tarbes-et-Lourdes et nous avons en l'occurrence beaucoup parlé des catéchèses que vous avez fait paraître sur la politique. 6 catéchèses sur la politique où vous abordez la question du bien commun, du sens de la communion, aussi cet appel à la transcendance que vous nous avez expliqué, également comment l'autorité peut être exercée comme un service et ce regard que nous devons porter sur la personne fragile qui doit être, disiez-vous, je crois, le diapason un peu de l'action politique. Monseigneur Brouvet, il se trouve que l'Église s'intéresse avec beaucoup plus d'attention, à la suite sans doute d'un certain nombre de mouvements, mais également du pape François, à l'écologie et à ce qu'on appelle parfois la sobriété heureuse. Nous sommes dans une période où la sobriété n'est pas à l'honneur. C'est plutôt la grande consommation, l'achat massif de masse avec beaucoup de cadeaux. Est-ce qu'on n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe avec cette sobriété heureuse là en ce moment? C'est une de vos catéchèses hein, sur l'écologie, sur le respect de la création.
Oui, c'est beau de la lire, en disant d'en parler au moment de Noël. Vous avez raison, on est tiraillé au moment de Noël, on voit bien, on est tiraillé entre la contemplation de l'enfant de la crèche, du pauvre enfant de la crèche, et puis la consommation et surconsommation qu'il peut y avoir. Moi, je comprends très bien le désir d'abord de la fête. Le désir de la fête, c'est un désir qui est beau, qui est saint, qui fait grandir une famille, qui fait grandir une communauté. Je trouve que les fêtes de Noël, c'est les fêtes où on se retrouve souvent en famille. Alors, il peut y avoir des tensions en famille, hein, mais en tout cas, c'est un moment intergénérationnel, hein, où on ne met pas les enfants d'un côté, les adultes de l'autre. C'est un moment où on se retrouve, c'est un moment de grande joie, de grande paix. Et donc, qu'il y ait des fêtes, c'est normal. Qu'on prépare des bons petits plats, je trouve que ça contribue à la fête. Moi, j'ai toujours été émerveillé par le nombre de repas que Jésus prend dans l'Évangile. Et on sait très bien comment, d'ailleurs, la vie du ciel est comparée dans l'Écriture à un festin, au festin messianique, hein, une sorte de grand festin où on sera les uns avec les autres, parce que dans une fête, dans un banquet, dans un repas de famille, eh bien, il y a des échanges, on prend le temps d'être les uns avec les autres, il y a souvent beaucoup de joie, on peut un peu oublier ses problèmes. Je crois que c'est normal. Je crois que c'est normal aussi à Noël de se faire des cadeaux, parce que c'est une tradition. Alors, c'est une tradition qui n'est pas partout la même, hein, parce qu'il y a des endroits où on ne se fait pas des cadeaux le jour de Noël. On s'en fait le 6 décembre pour la Saint-Nicolas, ou bien on s'en fait pour l'Épiphanie. Bon, enfin bref. En tout cas, se faire des cadeaux, c'est très généreux. Parce qu'on montre à l'autre mais combien il nous importe, combien il a de la place dans notre vie, qu'on s'est fendu pour trouver une idée. On a cassé sa tirelire. Alors, je trouve que le débat de la sobriété heureuse, il est bien là, parce qu'il se dit, il veut dire, au fond, comment est-ce qu'on peut avoir gardé le sens de la fête? On n'est pas là pour être des tristes cires. Comment est-ce qu'on peut se faire des cadeaux, se faire des présents, mais penser aussi le montant de nos dépenses. Se dire comment est-ce que à la fois il faut faire ça et puis à la fois ne pas tomber dans des exagérations parce que au fond on voit aussi hein, des gamins qui ont trop de jouets et qui les ont abandonnés une semaine après. On voit des chambres de gamins qui sont pleines de jouets qui sont quasiment inutilisés. Ça leur a fait plaisir un jour, deux jours, parfois même moins. Et puis en fait ils se lassent quoi. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de penser cette lassitude? La question derrière, c'est la question du désir. Il y a des choses qu'on désire, est-ce qu'il faut qu'on ait tout ce qu'on désire? C'est une question profonde, ça. Il y a des choses qu'on désire, est-ce qu'il faut vraiment qu'on ait tout ce qu'on désire et qu'on consomme tout ce vers quoi notre désir nous porte? Et on voit très bien que l'éducation d'un enfant, c'est précisément cela, c'est lui dire qu'il y a des désirs qu'on peut, disons, satisfaire tout de suite, qu'il y a des désirs qu'on ne pourra satisfaire que plus tard, et puis qu'il y a des désirs qu'on ne pourra jamais satisfaire, et que l'enfant, il a à apprendre avec sa raison, avec sa volonté, en grandissant, eh bien que tous les désirs ne peuvent pas être réalisés. Je crois que ensuite la sobriété heureuse, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de notre planète. Est-ce qu'on l'épuise parce que justement on en veut toujours plus, ou est-ce que on pense que on pense à la suite, on pense aux générations futures, on pense que elle n'est pas un simple objet de consommation.
C'est l'objet de votre sixième et dernière catéchèse de ce livret qui vient de paraître, qui est l'écologie humaine, où justement vous essayez de montrer combien à la fois l'Église tient compte de tout ce qui a été fait, dit, et en même temps y apporte sa touche et sa lumière.
Oui, parce que
alors
c'est...
qu'est-ce qu'on y apporte ?
Oui, parce que ce qui est beau, c'est de voir comment ce que l'enseignement social de l'Église s'est forgé et a grandi. On n'est pas parti de zéro, en fait. On part de constats, on part d'un dialogue avec à la fois la société et puis avec les événements du quotidien. L'écologie, ça n'a pas été d'abord une préoccupation de l'Église. Ça a été d'abord une préoccupation d'un courant de pensée, de politique. Je me rappelle d'une vieille émission que je regardais quand j'étais petit, qui s'appelait La France défigurée. Voilà. Ça a été ma première... c'est la première fois que j'ai réalisé que, en fait, le progrès qui nous fait consommer n'est pas forcément un progrès pour la création. Et que la consommation, c'est bien, mais qu'évidemment, elle avait ses limites. Alors, elle a ses limites dans l'intérieur de la personne, mais elle a ses limites aussi pour la nature. Alors ensuite, moi, j'ai essayé de dire dans cette catéchèse, de manière brève, ce que pouvait apporter l'Évangile, hein, et en particulier le fait que eh bien, nous avons cette longue tradition que la création nous est donnée. Alors on l'appelle la nature, parce que c'est un terme plus neutre. Mais moi, la nature, je l'appelle plutôt la création, parce que moi, j'accepte qu'il y ait un créateur, quoi. Et donc, la nature, ce n'est pas moi qui l'ai forgée, elle est remise entre nos mains. Elle est remise aussi entre mes mains, on en est chacun responsable, non pas pour l'épuiser, pour satisfaire le moindre de mes désirs, mais pour la sauvegarder, la cultiver, mais aussi la sauvegarder, la protéger. L'homme est cultive et à la fois protège la création. Et puis l'homme, il fait partie de la création. L'homme est créature aussi. Et comment est-ce que nous ne partons pas, vous voyez, à la fois sur... une protection de la nature en général, la terre, l'air, l'eau, enfin voilà, tout ce qui est à notre portée. Mais parce qu'on peut avoir, vous voyez, ce discours écologique sur la nature et puis complètement oublier qu'il y a aussi une écologie humaine, que la personne aussi, on ne peut pas en faire ce qu'on veut, que la personne, elle est sacrée, que la personne... elle est aussi une créature de Dieu sur laquelle on ne peut pas mettre la main sans déséquilibrer en fait tout l'équilibre écologique.
Je vous encourage vivement les uns et les autres à vous procurer ces catéchèses pour quelques euros, je crois que c'est 3 euros, 6 catéchèses sur la politique. Monseigneur Brouvet, en conclusion, vous lancez un appel à oser l'Évangile dans notre vie sociale. Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Ben, je voudrais que les chrétiens prennent conscience de ce qu'ils ont entre les mains lorsqu'ils ont l'Évangile et qu'ils n'ont pas à avoir peur de s'engager en politique avec tout ce qu'ils sont et avec l'Évangile au cœur. La politique en France et la laïcité, ce n'est pas du tout laisser tomber l'Évangile ou le mettre de côté dès que j'entre en politique ou que je me mets au service, par exemple, d'une équipe municipale. Mais... c'est faire cela avec toutes mes convictions de chrétien, non pas pour imposer un ordre, non pas pour imposer des lois, mais parce que voilà, on est porteur de tout cela, de ce respect pour la création, de ce respect pour les plus fragiles, de ce désir de vivre en communion, de ce désir d'exercer l'autorité comme un service. Je crois que on peut être fier de ce que nous portons et on peut être fier de notre enseignement social. Et il ne faut surtout pas qu'un chrétien qui, qui, euh, qui, d'ailleurs, que ce soit en politique ou bien dans la vie économique ou sociale ou dans l'engagement syndical, il faut surtout pas qu'un chrétien se dise, oh là là, il faut que je mette tout ça de côté parce que sinon ça va pas faire bon ménage avec le reste de l'équipe. Au contraire, je crois que nous avons une immense richesse qui peut être partagée par tous et qui peut contribuer à faire que notre société soit plus fraternelle, plus libre, plus juste, plus équitable.
Ces catéchèses, un certain nombre vont s'en saisir, des groupes aussi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un cycle de formation qui s'appelle disciples missionnaires qui est lié justement à ce que vous venez de dire, à une mise en œuvre au fond d'une action politique au sens large?
Oui, alors disons, la formation des disciples missionnaires, c'est une formation qui va sur laquelle on va faire un certain nombre de conférences là au printemps, et puis qui va commencer véritablement en septembre 2018, en septembre prochain, qui est une formation pour les baptisés en général. Voilà. Ce que nous allons essayer de lancer de manière plus proche, hein, de l'enseignement social de l'Église, c'est un parcours Zachée. Parcours Zachée, c'est un parcours qui a été mis au point pour essayer à la fois de connaître mieux l'enseignement social de l'Église, mais pour le mettre en pratique surtout dans sa vie quotidienne. Comme père de famille, par exemple. L'enseignement social, il vous concerne comme père de famille. Il vous concerne comme aussi, je sais pas, gestionnaire de votre portefeuille, comme aussi employé dans une structure. Voilà. Et donc, comment est-ce que la doctrine sociale de l'Église, ça ne sont pas simplement des principes qui guident notre réflexion, nos lectures, et puis la manière dont on lit le journal, mais comment est-ce qu'on peut en vivre déjà là maintenant, lorsque, ben, voilà, dans ma vie courante, j'ai à gérer de l'argent, j'ai à m'occuper d'un certain nombre de personnes, j'ai à conduire ma famille, j'ai à être un citoyen au milieu des autres, je suis membre de, enfin disons, actif dans mon quartier où je m'engage dans ma vie, dans la vie municipale. Voilà, donc ce parcours, on en donnera des nouvelles aussi sur Radio Présence, mais je crois que ça peut aider un certain nombre de gens à approfondir, hein, cet enseignement riche de l'Église sur la politique et la vie sociale.
Six catéchèses sur la politique, voilà, procurez-vous ce petit livret paru très récemment, signé Monseigneur Nicolas Brouvet, l'évêque de Tarbes-et-Lourdes, sur le site internet du diocèse. Vous tapez diocèse de Tarbes-et-Lourdes, vous aurez en téléchargement un bon de commande ou bien à la maison diocésaine Saint-Paul à Tarbes. Monseigneur Brouvet, cette série d'émissions touche à sa fin. En guise de conclusion, puisque c'est la fin de l'année, on a envie de vous entendre prononcer quelques vœux pour ceux qui nous écoutent. Et les personnes, hein, du diocèse de Tarbes-et-Lourdes et d'ailleurs.
Eh bien, je souhaite tous mes voeux de bonheur et de paix à tous nos auditeurs. Vous savez que le 1er janvier, c'est le jour de Sainte Marie, Mère de Dieu, et puis c'est le jour qu'a choisi l'Église pour célébrer la paix. Et du coup, on peut d'abord que souhaiter la paix, hein, dans nos familles, dans nos communes, dans notre pays, dans notre nation. J'ai parlé dans une de ces interviews de la nécessité de savoir débattre. Puis il y a un vœu que je fais, c'est que en fait on sache s'engager pour le bien commun, s'engager dans nos communes, dans nos associations, dans notre vie politique, dans notre vie économique, qu'on refuse une certaine posture individualiste et qu'on comprenne comment en fait nous n'y arriverons que les uns avec les autres. Voilà. Nous n'y arriverons que les uns avec les autres. Et c'est ça qui nous fera grandir personnellement. Bonne année à tous.
Bonne année, Monseigneur.
Rencontre avec nos évêques.